enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mon thème ce matin, quand l'Esprit agit. Nous aurons trois grands points. Le premier point sera le témoignage biblique de l'action de l'Esprit. Mon second point sera le témoignage historique français de l'action de l'Esprit. Et mon troisième point sera que faire pour que l'Esprit puisse agir. Dans un premier temps, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Tu es alors fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Il est ton Père. S'il est ton Père, par définition, celui à côté de toi est qui? Ton frère et ta sœur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Permettez-moi d'attirer votre attention quelques instants sur ce que, eh bien, la parole de Dieu nous révèle et nous montre. Très souvent, la lecture de la parole m'entraîne dans des récits qui m'encouragent. Et je vois dans cette parole et dans ces récits des événements surnaturels glorieux. Et plus j'avance, plus je me réjouis. Mais en même temps, plus j'avance, plus s'installe une frustration en moi. Et je me dis, mais où sont-elles ces heures de gloire de l'Église primitive? Où sont-ils ces Élisées, ces Daniel et ces Joseph qui, de l'Esprit, avaient des révélations? Très souvent, eh bien, en lisant, alors que ma joie est grande quant à ce qu'ils ont vécu, au-dedans de moi, il y a une forme de désespoir quant à ma propre situation. Et je me dis, Seigneur, mais il y a un tel décalage entre eux et moi. Il y a un tel décalage entre eux et nous. Il y a un tel décalage entre l'Église des temps premiers et l'Église de la fin des temps. Pourquoi? Paul dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il n'était pas plus enfant que nous le sommes. Il n'était pas plus héritier que nous le sommes. Nous avons donc droit au même moment de gloire. Nous avons donc droit de voir la gloire de Dieu au milieu de nous comme ils avaient le droit de la voir. Cependant, ils avaient, eux, une attitude de cœur qui permettait à l'Esprit d'agir. Dieu a-t-il changé? Non. L'Esprit Saint a-t-il changé? Les promesses ont-elles été données pour les premiers croyants uniquement? Non. Dieu est-il omnipotent? Oui. Jésus est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Son Esprit conduit-il aujourd'hui encore? Alors nous avons des choses à redécouvrir. Je veux et je désire en tant que pasteur de cette église que nous entrions pleinement dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Je veux pas que nous soyons privés de la gloire de Dieu. Je veux croire à ces temps de gloire. Vous savez, ce petit garçon sourd à 5 mois qui est guéri, les démons qui sont chassés, ça ce sont que des signes extérieurs. Ce qui est important, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Mais quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, la gloire de l'Éternel t'accompagne. Et nous l'avions vu ensemble dernièrement, heureux ceux qui sont pauvres en eux-mêmes, car le royaume de Dieu est à eux. Et si le royaume de Dieu est à toi et à moi, alors le royaume de Dieu doit se manifester là où tu es et là où je suis. Dans un premier temps, je voudrais vous encourager, c'est mon premier point. Quelques témoignages bibliques d'action de l'Esprit que vous connaissez pour la plupart. Joseph, recevant l'explication du songe de Pharaon, Genèse 41, que lui dit-il ? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Voilà un homme qui a une communion avec Dieu et qui peut dire avec assurance, Pharaon, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui te donnera la réponse dont tu as besoin. Et puis, quelques versets plus loin, verset 33, il nous est dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, etc. Frères et sœurs, un homme qui, sous l'action de l'Esprit, recevra en un instant après l'explication d'un songe toute la politique économique à mener pour les 7 ans à venir à l'égard du pays le plus puissant de l'époque, l'Égypte. Ça, c'est la gloire de Dieu. Une révélation d'en haut donne toute la politique économique à Joseph. Il la partage à Pharaon. Il lui dit exactement ce qu'il doit faire. Pharaon obéit. Résultat, non seulement l'Égypte ne connaîtra jamais la famine, mais elle deviendra un pourvoyeur de nourriture pour les pays d'alentour. Et c'est ainsi, vous le savez, eh bien que le père de Joseph et ses frères reviendront près de lui en Égypte. J'aime ces récits-là. Moi, je souhaiterais qu'en France, on ait des hommes qui nous dirigent et qui soient inspirés comme cela. Je souhaiterais que nous ayons ce genre d'événements qui se produisent. Élisée, vous connaissez tous son histoire. Je cite juste, eh bien, un événement de sa vie. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, 2 Rois 6. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi « Garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Moi je souhaiterais parfois entendre ce que vous dites dans votre chambre à coucher. Même sans aller dans la chambre à coucher, rien que dans la cuisine. Un homme de Dieu sous l'action de l'Esprit, capable de dévoiler les secrets et les plans de l'ennemi, alors qu'il est à des lieux de là, capable de lire et d'entendre tout ce qui se passe dans sa chambre. Mes amis, nous lisons, nous regardons les parents de Jésus. La Bible nous dit « divinement avertis ». Ils partirent avec l'enfant en Égypte pour le faire échapper à Hérode. Des parents prévenus du danger que leurs enfants risquent de courir, qui obéissent à la voix de l'Esprit et qui arrachent l'enfant à la main de celui qui allait devenir son assassin. Mon rêve, c'est que les pères et les mères dans ce lieu deviennent des visionnaires pour leurs enfants. Que vos enfants commencent à sentir que vous êtes des hommes et des femmes de Dieu, capables de recevoir de la part de Dieu des paroles pour leur vie qui les préserveront et les dirigeront. Mais nous lisons cela. Et nous nous disons tous, quelles belles histoires. Il nous semble que nous en sommes éloignés, que c'est inaccessible à nous autres, Ananias, interpellé chez lui par l'Esprit. Dans un songe, Dieu lui dit, tu vas voir Saul. Ananias a peur. Il dit, mais Saul est un persécuteur. L'Esprit lui dit, va, prie pour lui. Il est aveugle, je vais le guérir. Il lui dit, la maison, l'endroit, l'adresse. Ananias obéit et la gloire de Dieu se manifeste. Action de l'Esprit dans l'église primitive après la Pentecôte. Je pourrais multiplier les exemples, ils sont nombreux. Ce matin, moi je rêve. J'ose rêver, je suis pas Martin Luther King, mais je rêve quand même. J'ose rêver à une église dans laquelle des Joseph sont inspirés pour leurs entreprises. Je prie pour vous, les chefs d'entreprise qui êtes ici, que Dieu vous inspire la pensée quant à la conduite économique de vos entreprises par rapport aux temps qui viennent. pour qu'au moment difficile, vous soyez prêts, non seulement à affronter les temps difficiles, mais à aider ceux qui ne se seront pas préparés. Et qu'au travers de cela, vous deveniez des témoins à la gloire de Dieu. Je rêve de voir les parents être des visionnaires pour leurs enfants. Oh, je rêve qu'au milieu de nous, il y ait des Ananias guidés par le Saint-Esprit qui aillent là où Dieu les envoie. Mais nous lisons cela, puis nous vivons cela de loin. Ça nous semble tellement lointain. Et puis on se dit, finalement c'est déjà pas mal. Hein, on vit certaines choses, il y a de belles paroles de connaissance, Dieu interpelle, Dieu révèle, Dieu guérit quelques-uns. Dieu, il a beaucoup plus en réserve pour nous. Il a beaucoup plus en réserve pour toi. Dis à ton voisin, ce que tu vis n'est pas à comparer avec ce qu'il veut te faire vivre. Tant que vous n'aurez pas soif de ça, il ne se passera rien. Tant que tu n'as pas soif et tu te contentes de ta situation, tu resteras dans ta situation. L'Église primitive avait soif d'aller plus loin. Ils avaient le désir d'aller plus loin. Des hommes comme Joseph, Daniel avaient le désir de servir Dieu et de le servir pleinement. Quel récit merveilleux. Mais sont-ils pour nous ? Et j'arrive à mon deuxième point. Témoignage historique français d'action de l'esprit. Non, en France, il s'est passé des choses extraordinaires. En France, il y a eu des événements exceptionnels. Et je voudrais vous encourager en nous les rappelant ce matin. D'abord, nous allons faire un peu d'histoire. Qui aime l'histoire ? J'ai pas dit qui aime les histoires. Bien, essayez de me suivre, je vais aller doucement. Favorisé par le climat intellectuel de la Renaissance, le protestant Luther et Zwingli vont petit à petit influencer le pays de France par leurs idées réformées, à savoir qu'à la même époque, il y avait déjà en France, en germe des réformateurs. Saviez-vous que la Bible était déjà traduite en français en même temps que Luther l'avait fait traduire en allemand ? Saviez-vous que la Bible était déjà prête à ce moment-là, mais ces hommes-là, bien que réformateurs dans leur âme, n'ont pas eu le courage de Luther de franchir le pas ? Donc les idées de Luther vinrent. À cette époque-là, écoutez bien, 15 à 20% de la population française commença à soutenir le mouvement réformé et à s'y engager. Et naturellement, ce qui se passe malheureusement toujours, quand quelque chose de nouveau arrive, ce qui était bien en place, installé depuis des siècles, réagit. Des guerres de religion commencèrent, marquées, ponctuées par, des drames tels que celui que vous connaissez, la nuit de la Sainte-Barthélemy, où on tua plus de 10 000 protestants à Paris en une seule nuit. D'ailleurs, les historiens parlent de plusieurs Sainte-Barthélemy. À cette époque-là, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas la radio, et l'info n'arrivait pas tout de suite à Toulouse ou à Lyon pour dire ce qui se passe. Mais quand l'info arrivait dans une de ces villes, le peuple s'embrasait et les mêmes exactions recommençaient. Finalement, les protestants vainquirent avec Henri de Navarre, qui était protestant et qui devint roi, et ce fut le roi Henri IV. Puisque la majorité de son peuple était catholique, il s'est fait catholique. Mais avait le souci de veiller au bien-être des réformés, de ces hommes et de ces femmes qui venaient d'être éclairés quant au salut par la grâce, non plus le salut par les œuvres, non plus payer des prières pour être sauvés par grâce. Et Henri IV, promulgua l'édit de Nantes en 1598. Qu'est-ce que c'était que l'édit de Nantes ? On en entend parler ces temps derniers. En résumé, c'était simplement un compromis qui garantissait à la minorité protestante des droits politiques et militaires tout en les privant de toute expansion religieuse. Interdiction de s'étendre au niveau religieux, juste des droits politiques et militaires. Arrive Louis XIII. Le roi Louis XIII, après la mort d'Henri IV, commence à attaquer les avantages des réformés. Et puis arrive Louis XIV, qui lui, ce bon roi soleil, n'était de loin pas aussi bon qu'on le dit, qui va mettre le paquet. Et si pendant un temps on a privé les réformés de leur liberté, eh bien on va en arriver à les persécuter. Et ce sera le temps des dragonnades. Qu'étaient les dragons? Les dragons étaient simplement des soldats de Louis XIV qui venaient pour faire abjurer les gens. C'est-à-dire, ils venaient pour que les réformés abjurent de leur foi et retournent à leur religion première. Vous pouviez par exemple être dans votre maison. Un détachement de dragons arrivait, 15-16 hommes, ils s'installaient dans votre maison, commençaient à dormir dans votre lit, à manger toutes vos victuailles, jouaient du tambour toute la nuit pour que vous ne puissiez pas dormir. Au moment, ils arrachaient les bébés qu'elles avaient au sein, les gardaient à quelques mètres d'elles, laissaient pleurer le bébé, et s'il fallait, le laissaient jusqu'à ce qu'il meure. Et c'est comme cela, bien évidemment, que beaucoup de réformés abjurèrent. Ils revinrent par force à la religion qui était l'unique, Louis XIV disant, une seule nation, un seul roi, une seule foi. À ce moment-là, Louis XIV dira, il n'y a plus de réformés dans notre pays. Évidemment, ils avaient tous abjuré. Beaucoup avaient eu peur, d'autres s'étaient enfuis. On parlera de 200 000 protestants qui choisissent l'exil à cette époque-là. Il fait donc révoquer l'édit de Nantes. Il annule tous les avantages. Et là, commence pour les réformés entre 1685 et 1787. Un siècle de terreur. Les temples sont rasés. C'est dans notre pays de France, écoutez bien. Moi, dans mes cours d'histoire, on m'en a pas trop parlé. Les temples ont été rasés. Les pasteurs avaient 15 jours pour partir en exil. Tout pasteur que l'on retrouvait en train d'animer une réunion, qu'elle soit dans une grotte, qu'elle soit dans une forêt, ou où que ce soit, était condamné immédiatement à mort ou aux galères. On les tuait en les mettant sur une roue dans la place publique, on les attachait sur la roue et le bourreau, eh bien, avec une barre de fer, leur brisait les membres jusqu'à ce qu'ils meurent. Et pour ceux qui n'arrivaient pas à mourir, à la fin, au bout d'une heure, le bourreau les étranglait. C'était dans notre pays, c'était la France. Et ça remonte à peu de temps. Puisque si vous réfléchissez en arrière, eh bien 1685-1787, c'est tout juste avant la Révolution. Bien. Les femmes sont arrachées de leurs enfants. Les enfants sont mis dans des institutions religieuses où ils sont séparés à vie de leurs parents. Des femmes sont enfermées pour des années. Dans la tour de Constance, par exemple, vous avez tous entendu parler de Marie Durand, 38 ans dans la tour de Constance. Et à cette époque-là, alors que Louis XIV venait de révoquer l'édit de Nantes, alors que l'on avait cherché à éradiquer toute forme de foi réformée, commencent les dragonnades. Commence la révolte des Camisards. Je ne vais pas rentrer dans le débat, fallait-il qu'ils se révoltent ou non. Toutefois est-il, la révolte va durer 2 ans. 2 ans. Ils ne perdront pas leur bataille. Ce sera simplement, tacite accord qu'ils signeront une reddition, mais n'ont jamais perdu. Ça a duré 2 ans. Et c'est dans cette période-là qu'il va se passer en France des choses qui, vous déroutent. Des choses qui vous déroutent et qui ressemblent à ce que la parole de Dieu dit. D'abord, Louis XIV avec une armée d'entre 25 000 et 30 000 soldats, l'une des meilleures armées du monde, n'est pas venue à bout de ces paysans pour la majorité qui étaient uniquement entre 1 500 et 2 000. Ils n'ont jamais réussi à les vaincre. Jamais. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il se passait. Mais au milieu des Camisards, on parlait d'un général supérieur que l'on nommait l'Esprit. Et l'Esprit, en fait, c'était pas une personne. Ces hommes et ces femmes étaient des hommes de prière qui luttaient pour leur foi. Vous savez, frères, à cette époque-là, il y a des pasteurs qui ont abjuré. Et il y en a d'autres qui ont tenu jusque dans les galères et qui sont morts sur la roue. Pour mourir dramatiquement comme ça, il faut que tu aies une foi vivante. dans ce pays, nous avons des ancêtres qui ont souffert pour vous, pour que l'évangile vienne jusqu'à nous. Et si nous avons l'évangile et la liberté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes ont payé le prix. L'action de l'esprit, il la vivait. J'ai eu l'occasion de lire, si quelques-uns le voulaient, dites-le nous, mais il faudrait le commander particulièrement. Le livre « Le théâtre sacré des Cévennes », c'est à vous faire tomber par terre. Le théâtre sacré des Cévennes. Il a été édité en 1707. Et vous avez là des témoignages qui sont rendus. Je voudrais ce matin me proposer de vous en lire l'un ou l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? Vous me suivez toujours? Vous vous endormez pas au fond? Vous êtes avec moi? Faites comme ça. Ah, je crois que je suis le premier professeur d'histoire à avoir autant d'élèves réveillés. Écoutez. Premier témoignage, celui d'Élie Marion de Barre, dans les Hautes-Cévennes, qui a déclaré ce qui suit à Londres en janvier 1707. Je lis pour vous. « Comme j'étais dans le village de Ferrières, proche de Barre, vers le mois de mai 1703, je fus soudainement saisi de l'esprit en plein midi. Et dans cet état, j'eus une vision. D'abord, l'esprit me fit prononcer à peu près ces paroles. « Je t'assure, mon enfant, qu'il y a un homme qui est allé tout présentement chez un de tes ennemis, avec qui il parle pour te livrer. Le lieu de la demeure de cet homme est de ton côté gauche et il sera demain des premiers à l'assemblée. Je te le ferai connaître. Incontinent, l'esprit me fit voir cet homme se promenant avec le sieur Cambredon, subdélégué de l'intendant à Barre, comme si j'avais été dans la même chambre avec eux. » Ça vous rappelle rien? Hello? Ça me rappelle un Élysée. Je les voyais et j'entendais tout ce qu'ils disaient distinctement et facilement, comme on le peut juger, puisque nous étions tous trois ensemble dans le même lieu. Je voyais même la femme de Monsieur Cambredon qui allait et venait, se mêlant quelquefois de la conversation. Bon, ça. Cambredon s'informa de moi au paysan et du frère Lavalette, qui était notre ministre et principal prédicateur, lui disant que si on nous pouvait saisir tous deux, ce serait un des meilleurs moyens de rétablir la tranquillité dans le pays. Le subdélégué disait aussi au paysan, « Tu te feras des amis, monsieur l'intendant te récompensera. Monsieur le maréchal de Montrevel aussi, tu peux compter sur cela et en mon particulier je te donnerai 10 écus comptant et je te ferai gagner ton procès. » Le paysan, consentant à tout cela, ajouta qu'il irait le lendemain à l'assemblée et qu'à l'issue de la dite assemblée, il nous suivrait, le frère Lavalette et moi, pour l'assurer du lieu de notre retraite et qu'il en avertirait le dit Cambredon afin qu'il nous fît saisir. Après l'opération de l'esprit, je racontai au frère Lavalette ce que j'avais vu. Et ce qui me frappa si fort que j'en ai présentement l'idée comme le jour même. Je lui dépeignis l'homme, ses habits, sa taille, son âge et son visage. Et il conjectura juste comme on le verra tout à l'heure. Le lendemain, l'assemblée se fit. Et comme on chantait un psaume, l'esprit me saisit soudainement et me fit prononcer à haute voix que celui qui nous avait vendus était entré dans l'assemblée. Il me fit répéter tout haut. Aussi en présence du traître, l'entretien qu'il avait eu le jour précédent avec monsieur le subdélégué, et après que je fus revenu dans mon état naturel, mes yeux se portèrent sur le faux frère. Je le reconnus par l'idée que j'en avais reçue dans la vision, et il était devenu si pâle dans le temps que l'esprit me faisait raconter son histoire, que toute l'assemblée l'avait soupçonné. Tu m'étonnes ? Comme il n'avait pas été ordonné de le faire arrêter, je me proposais seulement de lui reprocher son crime et de lui faire quelque exhortation après que l'Assemblée se serait séparée. C'était en France, c'était en 1702. Hello? Dans mon pays, un homme inspiré comme Élisée. Êtes-vous prêt à écouter un autre témoignage? Deuxième témoignage. Durand Fage, d'Aubais, proche de Sommières, a déclaré ce qui suit à Londres, janvier 1707. Comme notre troupe était en R, N-U-R-S, hein, et Lascour de Cruvier, le frère cavalier, notre chef, eut une vision. Il était assis, il se leva soudainement en nous disant ces paroles. « Ah mon Dieu, Je viens de voir en vision que le maréchal de Montrevel, qui est à Alès, vient de donner des lettres contre nous à un courrier qui les va porter à Nîmes. Qu'on se hâte et on trouvera le courrier habillé d'une telle manière, monté sur un tel cheval et accompagné de telles et telles personnes. Courez, hâtez-vous, vous le trouverez sur le bord du Gardon. À l'instant, trois de nos hommes montèrent à cheval. Ricard, Bourré et un autre. Ça va bien ensemble, hein? Franchement, on dirait qu'ils l'ont fait exprès, hein? Ricard Bourré et un autre. Alors, je vous rassure, c'est le nom, hein? Ricard n'était pas bourré. Et ils se rencontrèrent sur le bord de la rivière dans l'endroit marqué, et l'homme et ceux qui étaient avec lui dans toutes les circonstances que le frère Cavalier avait spécifiées. Cet homme fut amené à la troupe et on le trouva chargé des lettres du maréchal, de sorte que nous fûmes informés par cette admirable révélation de diverses choses dont nous fîmes ensuite un heureux usage. Le courrier fut renvoyé à pied. J'étais dans la troupe quand cela arriva et j'atteste ce que j'ai vu. Est-ce que ça te saisit pas? Moi je me dis, Seigneur, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu il y a peu de temps dans mon pays de France. Rationnel, fermé aux choses de Dieu, l'action de l'esprit se reproduira encore, et je le crois, dans ma génération. Moi, je ne veux pas vivre du passé, je veux me réjouir du passé, mais je veux nourrir avec le passé le présent, et dans le présent dire, je crois à la gloire de Dieu. Je crois que l'action de l'esprit va se reproduire au milieu de nous, et que nous allons voir des choses qui dépassent l'entendement. Mes amis, je pourrais continuer. Un autre récit que je ne vais pas prendre maintenant, peut-être juste résumé. Dans une même situation, un homme est saisi par l'esprit et dévoile le fait que deux traîtres sont au milieu. Immédiatement, les deux traîtres sont reconnus parce qu'il va vers eux. Les deux hommes se repentent, pleurent. Et là, le prophète se remet, eh bien, être saisi par l'esprit et dit, mais l'assemblée est incrédule, l'assemblée dit que c'est de connivence avec ces deux hommes que je me suis arrangé pour dire ces choses. Vous dites qu'ils se repentent tellement vite que ça a été fabriqué. L'esprit vous dit, pour que vous sachiez que c'est moi qui ai fait ces choses, je dois allumer un grand feu. Ils ont allumé un grand feu. Le prophète s'est mis dedans. Les flammes dépassaient sa hauteur. Le témoignage est rendu, je ne prends pas le temps de le lire. Et il a attendu jusqu'à ce que les flammes soient petites et ressorties. Le récit dit, même pas ses habits blancs n'étaient touchés. On se croit en plaie Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai un autre témoignage. Madame de Montpellier, Madame MP, alors, peut-être Michel Peter Schmidt, je ne sais pas, a dit ce qui suit à Londres le 3 avril 1707. Écoutez bien. Au mois d'octobre 1705, deux jeunes hommes de ceux qu'on appelait camisards furent condamnés à être roués et brûlés vifs à Montpellier. Après qu'on leur eut rompu les quatre membres de quatre coups, ils avaient des barres de fer, hein, que chacun reçut, on les jeta dans un feu allumé qui était joignant l'échafaud. Quand ils eurent été quelques moments, ils se levèrent, comme si ce feu leur avait été un remède pour rejoindre leurs os brisés et pour guérir leurs plaies, et ils sortirent du milieu des flammes et s'en éloignèrent à quelque distance. Hello! C'est en France! Ça fait partie de ton histoire et de mon histoire, je ne l'invente pas. Après, on fut tellement surpris qu'à coups de baïonnette, on les remit dedans. Et cette femme dit qu'en fait, ils rendirent l'esprit dans une paix profonde. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de les remettre dans le feu. Est-ce que ça te réjouit? Pas qu'ils aient été brûlés. L'action de l'esprit, elle est là aujourd'hui. Permettez-moi un dernier témoignage. Vous m'en permettez un dernier? Qui m'en permet un? Moi, je ne veux pas qu'à la fin, vous dites, ouais, moi, je n'ai pas voté. Hein. Joël dit, Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Environ un an avant mon départ, deux de mes amis, Antoine Coste et Louis Talon, et moi allâmes visiter Pierre Jacquet, notre ami commun, au moulin de Lèves, proche de Vernoux. Comme nous étions ensemble, une fille de la maison vint appeler sa mère qui était avec nous et lui dit « Ma mère, venez voir l'enfant !» Ensuite, de quoi la mère elle-même nous appela, nous disant que nous vinssions voir le petit enfant qui parlait. C'est du vieux français, hein ? Elle ajouta qu'il ne fallait pas nous épouvanter et que ce miracle était déjà arrivé. Aussitôt, nous courûmes tous. L'enfant âgé de 13 à 14 mois était emmailloté dans le berceau et il n'avait encore jamais parlé de lui-même ni marché. Quand j'entrais avec mes amis, l'enfant parlait distinctement en français d'une voix assez haute vu son âge, en sorte qu'il était aisé de l'entendre par toute la chambre. Il exhortait, comme les autres que j'avais vus dans l'inspiration, à faire des œuvres de repentance. Mais je ne fis pas assez d'attention à ce qu'il dit pour me souvenir d'aucune circonstance. La chambre où était cet enfant se remplit. Il y avait pour le moins 20 personnes et nous étions tous pleurant et priant autour du berceau. Après que l'extase eut cessé, je vis l'enfant dans son état ordinaire. Sa mère nous dit qu'il avait eu des agitations de corps au commencement, de l'inspiration. Mais je ne remarquais pas cela quand j'entrais. C'était une chose difficile à reconnaître parce qu'il était enveloppé dans ses langes. J'ai beaucoup entendu parler d'un autre petit enfant à la mamelle qui parlait aussi à Clieux dans le Dauphiné. Des enfants au sein de la mère qui prophétisaient en français. On a amené ces enfants aux médecins de l'époque. Les médecins n'ont pas trouvé d'explication, si ce n'est parce qu'il en fallait une, qu'ils étaient fanatiques. 15 mois et fanatique ! Alors moi je veux bien être fanatique à 40 ans. Oh Seigneur, que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Dieu n'a pas oublié la France, c'est la France qui a oublié Dieu. Dieu n'a pas oublié l'Église, c'est l'Église qui a oublié Dieu. Il nous faut revenir, il nous faut revenir, il nous faut revenir à la parole pour que l'Esprit agisse. C'est mon dernier point, mon troisième point. Que faut-il faire pour que l'Esprit agisse ? Ceux en effet, Romains 8, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. L'un des particularismes et l'une des particularités des Cévenols à cette époque-là, c'était la sainteté qui les animait. Aucun compromis avec le péché chez les Camisards. Aucun compromis avec le péché. Les gens étaient saisis par l'esprit. Et le théâtre des Cévennes dit leur seule aspiration était de vivre dans la piété pour Dieu. Aucune parole désobligeante. Aucun mensonge. Aucun désir de posséder ce que l'autre avait. Ils avaient renoncé à la chair et parfaitement renoncé. Je vous lis simplement un extrait du dernier témoignage. Je ne vous le lirai pas en entier, ce serait peut-être trop long. Mais voilà ce qu'un homme dit. Un homme qui était arrivé dans une de ces réunions. Je fus, à la page 126, alors violemment frappé par une idée affreuse de mes péchés qui me parurent noirs et hideux et en nombre infini. Je les sentais comme un fardeau qui m'accablait la tête, et plus ils s'appesantissaient sur moi, plus mes cris redoublaient et mes pleurs. Ils me remplirent l'esprit d'horreur, et dans mon angoisse, je ne pouvais ni parler ni prier Dieu. Toutefois, je ressentais quelque chose de bon et d'heureux qui ne me permettait pas la frayeur de se tourner en murmure ni en désespoir. Mon Dieu me frappait et m'encourageait tout ensemble. Alors mon frère retomba dans un second extase et dit à haute voix que c'était mes péchés qui me faisaient souffrir. Et en même temps, il se mit à en faire une longue énumération et à les représenter devant toutes les personnes qui étaient là, comme s'il les avait vues ou lues dans mon cœur. Je n'aurais pu faire moi-même un portrait plus juste de mon propre état. Dès qu'il eut achevé cet épouvantable tableau, sans ni rien oublier et en insistant sur les péchés qui affligeaient le plus mon esprit, je me trouvais beaucoup soulagé et je goûtais avec une grande joie la liberté qui me fut rendue de pouvoir élever mon cœur et ma voix à Dieu. Je profitais de ce temps heureux et je ne cessais d'implorer la grâce de mon Père Céleste. Un peu plus loin, plus j'allais en avant, plus ma consolation s'augmenta. Et enfin, loué soit mon Dieu, j'entrais en possession de ce bienheureux contentement d'esprit qui est un grand gain. Je me trouvais tout changé. Et là, écoutez cette phrase. Les choses qui m'avaient été les plus agréables, avant que mon Créateur m'eût fait un cœur nouveau, me devinrent dégoûtantes et même insupportables. Notre malheur, c'est que nous voulons voir la gloire de Dieu, mais sans renoncer à la chair. Nous vivons dans le péché, nous regardons des films qui salissent notre esprit et déshonorent le Saint-Esprit qui habite en nous. On surfe sur Internet et on vient le dimanche lever des mains pures alors que notre cœur est sale. Les jeunes gens couchent entre eux comme si Dieu ne devait jamais s'en occuper. Les aînés en font autant, trompent leur femme ou leur mari comme si Dieu était loin de toutes ces choses. On agit et en même temps on dit « Dieu, viens te manifester ». On médite sur son frère et sa sœur, on le tue avec notre langue. Celui qui est assis, celle qui est assise à côté de moi, avec la langue je la tue. Et Dieu t'interpelle ce matin et te dit « Caïn, qu'as-tu fait d'Abel ton frère ?» Et tu lui réponds « Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn, qu'as-tu fait ? Ce matin, c'est peut-être ton prénom que Dieu fait résonner. Pierre, qu'as-tu fait de Jacques avec ta bouche ? Samuel, qu'as-tu fait de Georges avec ta bouche ? Où est ton frère ? Caïn, où est ton frère ? Dominique, qu'as-tu fait de ta sœur Sylvie ? Sylvie, qu'as-tu fait de ta sœur Geneviève ? Où est ta sœur ? Suis-je le gardien de mon frère ? À cause de cela, au lieu de voir la gloire de Dieu, c'est la malédiction de Dieu. Nous ne pouvons rester dans le péché et vivre dans le péché. Nous ne pouvons continuer à vouloir le monde et Dieu. Vous ne pouvez pas vivre partagé. Frère, c'est un cri. Sœur, c'est un cri qui sort du plus profond de mes entrailles et de mon cœur. Je ne suis pas là pour faire du théâtre. Je ne suis pas un hypocrite. Dans le passé, les hypocrites, étymologiquement, le mot signifie « celui qui se cache derrière un masque ». Lorsque les gens payaient le théâtre et y venaient, c'était avec un tacite accord. Ils savaient que celui qui était sur l'estrade jouait un rôle. Ils le payaient donc. On ne peut pas reprocher à cet homme-là de les avoir trompés. Il y avait un tacite accord. Mais ce matin, si je peux vous promettre quelque chose de tout mon cœur, c'est que vous n'avez pas un homme qui porte un masque, mais un homme qui est interpellé par Dieu, troublé par Dieu quant au péché du peuple de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le compromis. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça dans vos maisons. Vous ne pouvez pas faire comme si Dieu n'était pas là et ne vous voyait pas. Vous ne pouvez pas venir et vous attendre à lui alors que vous vivez la semaine dans la violence, dans le péché, dans la colère, dans la médisance. Frères, sœurs, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, je vous en supplie de tout mon cœur. Dans 2 Chroniques, il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je veux voir mon pays être guéri. Je veux voir l'Allemagne être guérie. Ich will, dass Deutschland geheilt wird. Ich will, dass Deutschland geheiligt wird. Ich will die Rettung Gottes sehen über ganz Deutschland, über die Schweiz. Ich glaube, Gott hat einen Plan für Europa. Mais il attend des hommes comme vous et comme moi. Nous sommes une minorité. Ils étaient 1500, pas plus. Nous n'avons pas besoin d'être des millions. Quelques-uns qui sont saints suffiront. Je crois à une vie sainte déjà sur la terre. Je crois que nous pouvons vivre une vie sainte sur la terre. Certains disent tout le temps, mais nous sommes pécheurs. À force d'utiliser cela, vous restez pécheurs et vous restez tranquillement dans le péché en disant, de toute manière, je suis pas assez fort pour changer. C'est un mensonge du diable. Tu peux changer. Tu peux sortir du péché. Frère, que dit Paul ? Lorsque nous nous laissons baptiser, il dit que nous mourrons au péché pour vivre avec Christ. Si nous ne mourrons pas au péché à ce moment-là, dites-moi, est-ce que la mort physique vous libère du péché ? Ben non. Pourquoi serions-nous saints dans le ciel après la mort ? Est-ce que la seule mort physique nous rend saints ? Absolument pas. La sainteté est un état de cœur qui commence maintenant, présentement, dans ce lieu, dans ton cœur. Tu le choisis. Ou tu le laisses. Mais n'accuse pas Dieu de ne pas voir sa gloire dans ta vie. Si tu ne cherches pas la sainteté sans laquelle il est impossible de lui être agréable. Ce matin, frère, je m'adresse aux jeunes gens. Je crois qu'il y a ici des jeunes qui vont devenir des serviteurs de Dieu puissants. Il y a au milieu de nous des jeunes qui mènent des vies qui sont un exemple pour les adultes. J'aimerais vous le dire, à vous qui êtes parents, à vous qui êtes adultes, il y a des jeunes dans ce lieu qui mènent des vies saintes. Il y a des jeunes qui ont choisi de servir le Seigneur et de le suivre. Il y a des jeunes qui ont fait abstraction du monde. Et je sais qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes mûrs qui ont fait abstraction du monde. Nous sommes dans le monde, mais ne vivons plus selon le monde. Cherche plus les plaisirs du monde. Cherchez ce qui vient d'en haut, dit l'Écriture. Et ces choses-là reviendront puissamment. Et dans ta chambre, tu verras ce qui se passe chez ton ennemi même. Et des révélations puissantes viendront. Et la gloire de Dieu se manifestera. Sanctifie-toi, peuple de Dieu. Sanctifie-toi, repens-toi. Repens-toi. La repentance ne commence pas par le peuple. La repentance commence par chacun individuellement. Individuellement. Et alors c'est le peuple qui se repent. Et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je crois qu'il y a pour les couples des bénédictions que Dieu a préparées, pour les familles, la gloire de Dieu. Si vous vous détournez, détournez-vous des mauvaises voies. Arrêtez de marcher sur la voie des pécheurs. Arrêtez de vous asseoir avec les moqueurs. Et commencez à dire, maintenant j'ai choisi de vivre une vie sainte. Et je vivrai une vie sainte. Et pas seulement après ma mort, maintenant, je veux croire que c'est possible, maintenant. Fermons nos yeux un instant. Est-ce que mon cher frère Bernard pourrait venir ? Veux-tu que l'Esprit agisse dans ta vie, soit clair dans ta position ? Mon troisième point n'est pas là pour vous accabler. Mes deux premiers points étaient là pour vous encourager. Les exemples bibliques de l'action de l'Esprit étaient là pour vous dire, mais ces choses-là, Dieu les fait, il les a fait. Mon deuxième point était là pour vous encourager en vous disant, ces choses-là, Dieu les a fait. Mais pas seulement en Israël, il les a fait dans ce pays. Et mon troisième point, c'est frères et sœurs, donne-moi la main, on va entrer dans cette dimension. Mais pour cela, accepte de mourir. acceptons de mourir à nous-mêmes. Acceptons de renoncer à nous-mêmes. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Christ. Pourrions-nous nous lever ensemble, commencer à prier. Commencer à prier. Ce matin déjà, l'Esprit de Dieu était merveilleusement à l'œuvre, merveilleusement à l'œuvre. Ce Saint-Esprit est toujours là, il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Moi, je ne peux pas vous convaincre. Je peux simplement vous partager mon fardeau de berger, ma souffrance. Simplement vous partager cela pour que vous ne restiez pas dans votre situation et ne soyez pas un jour déçus lorsque vous arriverez. Quel drame ! Une vie dans une église et entendre « Je ne te connais pas ». Vous qui vivez en concubinage, vous qui vivez dans l'adultère, vous qui médisez, prenez une décision. Je serais un mauvais berger si je vous laissais croire que ça passe. Je serais un mauvais berger si je vous laissais croire que le seul fait de reconnaître que vous êtes dans le péché et vite demander pardon suffit. Certains pêchent délibérément.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.